Radio Classique, les spécialistes.
7h39 sur Radio Classique. Nous sommes le mercredi 14 juin et comme tous les mercredis, vous le savez, dans les spécialistes, le 7e art qui est à l'honneur. 7e art avec notre monsieur cinéma, mon confrère du monde, Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel.
Bonjour Renaud.
On débute avec le processus de paix. C'est votre premier choix. Le processus de paix. Bien, petit extrait de la bande-annonce.
Charte universelle des droits du couple.
Pour commencer, les insultes sont interdites.
On ne mord pas son conjoint.
On ne ment pas. On se dit merci.
Jamais s'endormir fâché.
À la paix.
J'ai l'impression qu'on a découvert le calme.
Eh ben oui, enfin vous avez reniqué.
Pendant ces 50 ans que nous allons survoler, nous verrons qu'il y a eu de nombreuses tentatives de paix. Mais à chaque fois, un élément est venu enrayer le processus.
Passer toute sa vie avec la même personne, c'est une névrose.
Ce que je te propose, c'est qu'on se dise, une fois pour toutes, vraiment ce qui nous crispe. Ça te va ou pas? Tu veux commencer? Ok, donc j'y vais.
Voilà, un film sur la diplomatie du couple signé Ilan Klipper, hein, Samuel.
Tout à fait. Ilan Klipper est un jeune réalisateur qui vient du documentaire.
Ouais.
Donc, il avait entre autres réalisé Commissariat, Funambule, qui était un documentaire assez passionnant sur des personnes atteintes de troubles psychiatriques. Cette culture documentaire chez ce jeune réalisateur déteint fortement sur cette comédie,
ouais,
fort intéressante. Tout simplement parce que justement l'origine de cette comédie elle est documentaire. Ilan Klipper l'avait trouvé sur un site de rencontre gay et lesbien où s'était aperçu que sur ce site, eh bien certains et certaines cherchaient un géniteur. Or une fois ce géniteur trouvé, eh bien ces couples nouvellement formés écrivait une charte définissant les principes d'éducation qui seraient appliqués à leur future progéniture. Or, dans cette comédie, eh bien c'est exactement ce qui se déroule, sauf que là, bon, nous avons affaire à un couple formé depuis longtemps, sauf que comme
un couple hétéro,
ouais, un couple où d'un côté, bah écoutez, vous avez une femme extrêmement féministe, de l'autre, bah un homme qui est lui professeur de géopolitique, spécialisé dans le Proche-Orient, ce qui d'ailleurs est un atout, peut-on imaginer, pour résoudre de futurs problèmes, ou du moins
tenter de les résoudre.
Voilà, du moins a-t-il une culture du problème, ouais, et de la négociation. Et ce couple-là, assez immature, bah décide de faire des enfants,
ouais,
comme beaucoup de couples, mais se rend compte que faire des enfants, bah ce n'est pas seulement qu'un acte physique, ce n'est pas seulement circonstanciel, on en prend pour la vie.
Ouais, vous savez de quoi vous parlez, moi aussi.
Tout à fait, nous savons que nous parlons, donc nous sommes au milieu du chemin.
D'accord.
Sachant que le chemin ne s'arrête jamais.
Absolument.
Et ce couple se rend compte que, justement, bah ils font des enfants, mais ils n'ont jamais réfléchi à ce qu'ils voulaient faire de ces enfants, à ce qu'ils voulaient leur inculquer. Donc, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils ne sont absolument pas d'accord. Donc, du coup, ils décident d'écrire une charte,
ouais,
où seront consignés les principes d'éducation.
Alors, c'est une belle distribution, hein, Camille Chameau, Damien Bonnard. Et on sent Samuel, qu'il y a du Woody Allen dans ce film français. On sent une inspiration quand même, je pense, à Marié Femme.
Oui, tout à fait. Ça me frappe beaucoup. Alors, vous me direz, c'est assez logique qu'une comédie française ou pas française s'inspire de Woody Allen, parce que tout simplement, Woody Allen est le dernier grand metteur en scène de comédie. C'est aussi, bien évidemment, le dernier grand metteur en scène de comédie américaine. Donc, il est son influence, dirais-je, ne fait que commencer, en, ouais, fait, aujourd'hui. Simplement, dans Marié Femme, un très bon Woody Allen. Un film où justement Woody Allen se révèle expérimentateur et posait un regard documentaire sur les problèmes de couple. Et tout d'un coup, on se rend compte que justement ce regard qui est emprunté, ce regard de Woody Allen qui est emprunté par Ilan Klipper, hein, on prend la mesure d'une chose, c'est qu'aujourd'hui Woody Allen est un cinéaste sur la sellette. Il est parti pour rester sur la sellette pendant très longtemps, jusqu'à sa disparition. Mais alors qu'il est sur la sellette, en fait, il n'a jamais été autant regardé qu'aujourd'hui, et c'est pas demain que cela va s'arrêter.
On parlait de ces acteurs, Camille Chameau, Damien Bonnard. Je voudrais parler d'un autre acteur. On a ouvert le journal d'ailleurs de 7h30 sur Jean-Pierre Léo, qui se trouve dans une situation difficile. Il y a une cagnotte organisée par son ami, le critique de cinéma Serge Toubiana, qui alerte sur la situation de Jean-Pierre Léo, qui est dans une situation financière, psychologique difficile. C'est pas la première fois que des acteurs d'un certain âge se retrouvent presque dans le dénouement en France.
Absolument. C'est un problème récurrent. il y a encore quelques semaines, Jacques Rosier, le grand l'un des grands réalisateurs
de la Nouvelle Vague,
est décédé. Il est décédé dans un dénuement complet. Cela faisait au moins une bonne année qu'il n'avait plus de domicile, et donc se pose la question. Pour le cinéma français, mais pour tous les cinémas, mais pour le cinéma de la gestion de nos aïeux. Or, quelqu'un comme Dominique Besnéard, le grand agent Dominique Besnéard, a comme fonction, c'est assez méconnu, mais d'appeler toutes ces personnes aujourd'hui qui ont disparu du cinéma français, qui ont eu un grand passé, pour se renseigner sur leur situation matérielle. Or, parmi les chantiers qu'il faut ouvrir pour le cinéma français, il s'agit de l'un d'eux, véritablement.
On va passer à votre coup de cœur, Samuel. C'est pour un film américain qui mélange animation et prise de vue réelle. Son titre, Marcel, le coquillage, la quête d'un coquillage pour retrouver sa famille. Alors, dit comme ça, ça fait pas vraiment rêver, et pourtant...
Et pourtant, alors, effectivement, dit comme ça, ça fait un petit peu peur parce qu'on se dit on va se retrouver avec tous les poncifs. À savoir, bon, regarde le point de départ du film...
Ouais.
C'est un coquillage qui est tout seul dans une maison sans propriétaire. Et puis un jour, bon, la maison est louée via Airbnb à un jeune réalisateur, bah celui justement qui réalise ce film, Dean Fleischer Camp. Et puis ce nouveau locataire découvre ce coquillage et l'aide à retrouver sa famille. Comme ça, encore une fois, on se dit, mais où est l'imagination là-dessus? Déjà, l'imagination, elle est stylistique, tout simplement, dans un mélange de prise de vue réelle et d'animation. Et ça fonctionne extrêmement bien. Véritablement, c'est une chose qui aurait été beaucoup plus compliquée au XXe siècle et qui, tout d'un coup, par la technologie numérique, devient infiniment plus simple. Également, ce qui est impressionnant dans ce film, c'est tout simplement l'ambition qui est appliquée à cette histoire. L'ambition, pour le coup, scénaristique.
Ouais.
Car la quête de ce coquillage pour retrouver sa famille devient, aux États-Unis, dans le film s'entend, une cause nationale.
Ouais.
Et ce coquillage, en fait, se met à passer sur toutes les chaînes d'information, sur tous les grands talk-shows américains, pour retrouver sa famille.
Il faut le voir en VO, nous dit Samuel.
On n'a pas
vu la version française, donc voilà, peut-être c'est très...
Voilà.
Mais la VO, vous dites, finalement, les voix ont une importance
absolument,
capitale.
Absolument. La voix de falsetto du coquillage, en anglais, est merveilleuse. De la même manière, Isabelle Rossellini, tient l'une des voix dans ce film, une autre voix de coquillage, c'est une voix absolument extraordinaire. La voix fait partie de l'art de l'animation.
Ce que l'on entend, Samuel, ce sont quelques notes de la bande-son du film Carmen de Benjamin Millepied, ancien patron de l'Opéra de Paris. Une Carmen qui se passe aujourd'hui à la frontière du Mexique et des États-Unis. Un mot sur ce film.
En mettant le doigt justement sur l'actualisation et dirons-nous la modernisation de l'Opéra de Bizet, vous en posez, Renaud, à la fois l'originalité et puis d'une certaine façon les limites.
Oui.
Parce que est-ce que cette manière de moderniser l'opéra de Bizet est effective ou non? C'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué. Je suis pas certain quand même que ce soit la meilleure idée. Parce qu'en fait, en voulant moderniser Bizet, tout simplement, il y a le risque de le perdre en route.
On vous sent sceptique. Un mot sur un film qui ressort aujourd'hui, un film de 67, signé Peter Yates, 3 milliards d'un coup. Séquence vintage un peu avec vous. On a quelques secondes malheureusement, mais c'est excellent. Faut y retourner.
Absolument. C'est un des grands films criminels anglais de la fin des années 1960. Peter Yates, c'est l'homme qui, juste après ce film, réalisera Bullitt avec Steve McQueen. Ce qui est formidable avec ce film, qui raconte l'attaque d'un train postal, en fait, inspiré de la fameuse attaque du train lettre postale, c'est cette volonté clinique de décrire un cambriolage sans recourir chez les personnages à aucune psychologie.
Ouais.
C'est un cinéma qui, en fait, annonce celui des 40 années à venir. C'est formidable.
Merci Samuel. Monsieur Cinéma sur Radio Classique s'appelle Samuel Blumenfeld. On parlait de l'année 67, figurez-vous, avec ce film de Peter Yates. Quel groupe cartonnait en 67 en Angleterre, c'est fastoche.
Les Beatles.
Les Beatles, absolument, et avec ce morceau notamment. Les Beatles, eh bien figurez-vous qu'on va parler des scarabées dans le journal imprévisible de Marc Bourreau. Beatles et ChatGPT, figurez-vous. Marc, dans un instant, il est 7h49 sur Radio Classique.